Alors, le prix Goncourt 2015 a été décerné au premier tour de scrutin. Par 6 voix au roman de Mathias Hénard, Boussole, édition Actes Sud, ont également obtenu des voix Toby Nathan et Eddie Cadour.
Et un bonsoir numéro 1 pour Antoine Guillot.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être avait-il faim. C'est Note l'Express avec 15 minutes d'avance que les jurés du Goncourt ont annoncé le nom de l'heureux récipiendaire de l'édition 2015, Mathias Hénard, élu. On vient d'entendre au premier tour, Boussole, écrit Pierre Vavasseur dans Le Parisien, c'est Aladdin pour les pas nuls. Ce livre, déjà vendu à 25 000 exemplaires, selon GFK, rassemble les souvenirs en une nuit brouillée de vapeurs opiomanes d'un musicologue amoureux de l'Orient et d'une femme, Sarah, couture érotique entre deux cultures qui ont chacune à apprendre de l'autre. Boussole invite à la réconciliation. Cacher au lecteur qu'il s'agit d'une œuvre difficile relèverait de la faute professionnelle, prévient Pierre Vavasseur. Nous nous sommes posé la question de l'accessibilité, confie Didier Decoin, secrétaire général de l'Académie aux Parisiens. Et nous avons jugé qu'après les ouvrages de Pierre Lemaître et de Lydie Salvert, nous pouvions nous permettre un choix plus audacieux. Ce que salue l'ensemble de la presse, un beau choix pour Grégoire Le Ménager dans l'Obs, assez gonflé parce que Boussole n'est pas le roman le plus facile à lire de l'année, mais parfaitement légitime si l'on se souvient que le testament des Goncourt invitait à donner le prix aux tentatives nouvelles et hardies de la pensée et de la forme. Œuvre ambitieuse, érudite et captivante, roman monde jamais indigeste pour Sophie Joubert dans L'Humanité, sublime divagation dont jamais le texte ne pèse, malgré sa formidable densité, selon Elisabeth Philippe dans Les Inoccuptibles. Boussole, telle la coupole majestueuse d'une mosquée sur le Bosphore, domine la rentrée littéraire, estimiez-vous, Étienne de Montetti, dès le 3 septembre dans le Figaro. Plus ambitieux, plus savant, plus réussi que tant d'autres. Rare voix discordante dans ce concert de louanges, celle de Nathalie Levissal dans Libération, qui salue un livre solide, compact, débordant, d'une érudition réelle, mais par moments étouffante. Parfois, on le souhaiterait plus léger, mais c'est au fond son poids qui donne au récit sa qualité un peu hypnotique. Plus direct dans le même journal il y a un mois, Philippe Lançon voyait en Boussole une encyclopédie intime et démonstrative déguisée en roman, avec des personnages à rien cuistre dont les dialogues et les présences ne sont trop souvent que prétexte à anecdotes et informations. Vous apprendrez tant qu'il est probable que vous ne vous souviendrez de presque rien. Le livre est plein de recoins aussi obscurs que la grotte d'Ali Baba et comme elle surchargée, regrettée pour sa part Gilles Martin Chauffier dans Paris Match. On dirait que pour nous convaincre de la proximité entre Orient et Occident, Hénard franchit le Bosphore à la nage, sauf qu'il a sauté à l'eau tout habillé. Alourdi à ce point, sa traversée devient interminable. Mais peu importe, selon Philippe Claudel, membre du jury Goncourt, cité par l'Express, nous avions rendez-vous avec l'histoire littéraire. Après Proust, Malraux, Grac, Tournier, il nous fallait couronner Hénard. Quant à Bernard Pivot, il lui promet carrément le Nobel d'ici 20 ans et dire que nous sommes contemporains de ce moment d'histoire.
Et un bonsoir numéro 2, Antoine Guillot, pour le prix Médicis, cette fois.
Oui, alors Titus et Bérénice sont deux amants actuels, résume Eric Eschiman dans L'Obs. Titus est marié et ne veut pas divorcer pour Bérénice. Alors, il se quitte. Un jour, au plus fort de son chagrin, l'amoureuse abandonnée entend un vers de Bérénice, la pièce, dans l'Orient désert, quel devint mon ennui à Racine et ses diérèses, Orient, où toute la souffrance du monde s'exprime en un simple chuintement mouillé, rien de tel. Pour apaiser la douleur. Alors, Bérénice s'empare du tragédien et se livre à une étonnante reconstitution. Un récit dans le récit, système a priori pesant, mais qui permet à Nathalie Azoulay de se libérer de la contrainte historiographique, même si elle a nourri son roman des données disponibles. On craignait après la première page un texte larmoyant sur la douleur de la rupture amoureuse. S'alarme d'abord Marianne Grosjean dans la Tribune de Genève. Il n'en est rien, heureusement. Original et divertissant, le roman de Nathalie Azoulay capte avec finesse et sensibilité, ce qui constitue l'essence des caractères humains, juge-t-elle. C'est son style qui séduit pour beaucoup, comme Francine de Martinoire dans La Croix, de l'esthétique minimaliste à la mode il y a quelques années, ce que les Italiens ont appelé l'art pauvre. Nathalie Azoulay se sert avec brio aux premières pages de ce roman et en reprend les constantes, proximité dans un présent continu, refus de la profondeur et de la mémoire. Delphine Perras salue pareillement dans L'Express une écriture à la fois éloquente et sobre, toujours à hauteur d'homme, et un beau roman qui invite avec force à relire Racine autrement, ce qui, on s'en doute, réjouit Fabienne Pascaud. Nathalie Azoulay démontre avec une sensibilité écorchée la formidable modernité des anciens, écrit-elle dans Télérama, et comme il est enchanteur, excitant et rédempteur de se perdre et de se retrouver dans la ferveur de leur écriture, palpitant roman, puzzle droit et futé pour Edgar Davidian dans L'Orient le jour, une carte de tendre mêlant à la banalité du contemporain, la fine fleur du XVIIe siècle pour Laetitia Favreau du journal du dimanche, qui aime elle aussi, dans un univers peuplé de diérèse et de cinérèse aussi, il y en a, l'écriture sobre, voire minimaliste, mais toujours mélodieuse de Nathalie Azoulay. Rare réserve, pour une fois pas dans Libération, mais dans Le Monde, la structure à deux niveaux, l'histoire de Bérénice, la délaissée d'aujourd'hui, et celle de Racine ne convainc pas tout à fait, écrit Raphaël Léris, mais c'est pour aussitôt rajouter qu'il y a dans Titus n'aimait pas Bérénice quelques pages superbes, des phrases dépouillées et pourtant d'une grande force, une volonté de fouiller l'histoire et la langue pour réussir à empoigner le marbre de la statue du tragédien et lui donner chair, lui insuffler de la vie. Titus n'aimait peut-être pas Bérénice, mais la presse adore. Le prix Médicis 2015.
Le prix Renaudot 2015 a été attribué à Delphine de Vigan pour « D'après une histoire vraie » aux éditions Lattès, ont obtenu des voix Laurent Binet, Agnès de Sarthe et Philippe Jainada. Deux voix à Laurent Binet, une voix à Agnès de Sarthe et une voix à Philippe Jainada. Le prix Renaudot de l'essai a été attribué à Didier Blonde pour Leïla Maï, 1932 aux éditions Gallimard. Et enfin, le prix Renaudot du livre de poche a été attribué à Vénus Corrigata pour La fiancée était à Dodane chez Folio Gallimard. Merci.
Et bonsoir numéro 3, Antoine Renaud de Guillot.
Bonsoir Arnaud Laporte. Delphine de Vigan s'est logiquement réjouie mardi, mais ne faudrait-il pas la plaindre, s'interroge Sabrina Champenois dans Libération. Le Renaudot 2015 a d'après une histoire vraie, c'est la promesse d'un buzz et de ventes supplémentaires, alors que son septième roman caracole déjà en tête des ventes de la rentrée avec plus de 107 000 exemplaires écoulés. Or, d'après une histoire vraie s'ouvre comme suit sur une auteure lessivée par le succès, au point d'en être bloqué dans l'écriture et d'hyperventilé, écrit sous l'influence revendiquée en exergue de Stephen King, celui de Misery, où un écrivain est séquestré par une lectrice psychopathe, ce roman met en scène un bras de fer entre l'écrivaine en panne et en proie à tous les doutes et une certaine elle qui la prend psychologiquement sous son aile. Las, c'est pour mieux te dévorer, mon enfant. Le coup de foudre amical vire à l'intrusion et à l'emprise. On pense à JF Partagerait Appartement. Le fait est que l'écrivaine française n'a pas à rougir du patronage de Stephen King, estime Raphaël Léris dans Le Monde. Au fil de ce roman roué, à la fois risqué et réussi, qui multiplie les effets de réel, elle avance sur la ligne de crête entre le terrifiant et le ridicule et parvient à ne pas tomber du mauvais côté. D'après une histoire vraie, tient le lecteur en haleine, tout en posant de sérieuses questions sur notre rapport à la littérature. La narratrice et la romancière s'y interrogent finement sur la question de la vérité en littérature et sur les genres littéraires, à une époque où l'autobiographie et les biographies romancées sont souvent sur le devant de la scène, renchérit Sabine Audrery dans La Croix, qui salue une puissante et étonnante réflexion sur les pouvoirs de la fiction. Jérôme Garcin est impressionné dans L'Obs par ce vrai faux roman tout en abîme, en trompe-l'œil, en suspense, où Jeu est un autre et dont l'auteur sort exsangue le lecteur aussi. Léger contrepoint chez Nathalie Chrome dans Télérama, qui trouve le roman sans doute un peu trop long, mais c'est pour dire tout de suite après qu'il se tient de bout en bout parfaitement en équilibre entre thriller et métafiction. Bref, ce Renaudot confirme la place de Delphine de Vigan parmi les auteurs français les plus populaires et bankable du moment. Il est fait de la même étoffe anti-héroïque, convalescente, immédiatement émouvante, grâce à une écriture fluide et dépourvue d'effet de manche. Seul un esprit tordu pourrait trouver à redire à tant d'évidence, hélas celui de Sabrina Champenois de Libération, les tordus. Sans être protestant, écrit-elle, on peut être embarrassé par le passé pathos bétonné, par cette imperfection de soi martelée ad libitum, par l'autoportrait de l'artiste en petite fille inconsolable, l'irruption du sempiternel débat sur le réel dans l'écriture et particulièrement l'autofiction grippe un brin le suspense, mais admet-elle, la fin est carrément réussie, qui fait naître un doute savoureux, et si, d'après une histoire vraie, était une entreprise de manipulation de A à Z, où De Vigan s'auto-scrutait et se parodiait en entomologiste ironique, une phrase comme « l'angoisse s'est répandue dans mon appartement comme une flaque de sang » en deviendrait géniale, ostensiblement de série B. C'est tout le talent de Stephen King d'être à la fois diabolique et ludique, machine à créer du frisson sans prétendre au sacrifice.
Bonsoir, numéro 4, Antoine Guillot.
Ah, mais encore bonsoir, Arnaud Laporte. Vous savez qu'à l'Obs, on a attendu la proclamation du prix féminin en brûlant des cierges et en croisant les doigts pour l'ami Boltanski, qui en plus, disent-ils d'être un collègue sympathique et un grand reporter à l'Obs, s'est lancé fin août dans la littérature en publiant l'un des meilleurs récits de la saison consacré à l'étonnante histoire de sa famille. Dès la fin août, Grégoire Leménager saluait dans le même Obs un magnifique livre à la Pérec, impeccablement construit, intelligent, de la première à la dernière ligne, qui tient à la fois du jeu de Cluedo, du journal d'Anne Frank et du grand reportage sur une étrange tribu française. Les Boltanski, explique Philippe Gély dans le Figaro, c'est une famille d'intellectuels qui n'a cessé de s'illustrer depuis trois générations dans la littérature, les arts et la recherche. On imagine qu'il fallait appartenir à cette lignée pour oser s'y frotter, sans quoi l'on risquait d'être intimidé. Mais là n'est pas la clé du roman de Christophe Boltanski, et celui qui attend le portrait fanfaron d'une antichambre de l'élitisme français sera déçu. La cache est l'exact opposé d'une autocélébration, une plongée dans l'intime, le secret, le noyau, la mémoire d'un clan qui vit pelotonné autour de ses cicatrices et de ses codes sans jamais les dévoiler. Pour raconter cette saga, il fallait en faire partie parce que c'est la seule façon de la connaître. Ce n'est pas si commun, relève Nathalie Chrome dans Télérama, en choisissant de décerner leur prix à La cache est un premier roman qu'on distinguait les jurés du prix Fémina, mais La cache est un coup d'essai exceptionnel, un livre d'une grande maîtrise formelle, estime-t-elle. Toute la beauté du livre de Christophe Boltanski tient à la façon, tout ensemble grave et cocasse, dont il ausculte l'origine et les symptômes de la névrose familiale pour en nourrir un beau livre subtilement mélancolique et d'une remarquable profondeur. Récit magnifique dans sa construction comme dans son écriture, lâche, libre, légère pour l'Orbuisson dans Marianne, livre si vivant sur ce qu'on peut faire de sa peur de vivre pour Marie-Laure Delorme dans le journal du dimanche, bouleversant pour Raphaël Léris dans Le Monde, La cache ne rencontre qu'une toute petite critique signée, devinez qui, Philippe Lançon de Libération. C'est quand il sort de l'hôtel particulier parisien de la rue de Grenelle, cet obscur huis clos excentrique d'une liberté précieuse, naturelle et perpétuellement menacée, que Boltanski laisse l'écrivain derrière lui, regrette-t-il, le journaliste échouant alors à être davantage qu'un supplétif destiné à fournir une étoffe factuelle aux souvenirs inaccessibles des autres. Dans la lignée, il est ainsi le premier à être allé dans le berceau familial de l'aïeul, Odessa, une ville sans juifs, entre guillemets, où, ne trouvant aucune trace de ceux qui l'ont fui, il peine à imaginer ce qu'il ne peut informer, trop honnête pour inventer. On a connu pire critique.